même l'été. Bonjour à toutes et à tous, c'est une vraie joie et c'est vrai, c'est une vraie joie de vous retrouver tous les midis, entre midi et une heure sur Canal M pour vous présenter M l'été. Nous sommes 9 juin comme ma camarade Hélène Denis a dû vous le dire. Alors aujourd'hui il y aura bien sûr des nouvelles pour commencer cette émission et puis je vais ensuite partir avec vous en Abitibi-Témiscamingue où on va découvrir un petit peu les activités de plein air et de loisirs qui vous sont proposées. Et c'est Sébastien Meuret qui va répondre à mes questions. Avec Sarah Rouleau, responsable des communications et du marketing à l'INCa Québec, nous évoquerons l'avenir du livre audio. Également, en studio, Sébastien Davio. Sébastien Davio, eh bien, il est représentant de Trivel, les tricycles adaptés pour les enfants qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel. Je trouvais que c'était un petit sujet bien estival. Et puis, une chronique avec France Remette qui viendra de temps en temps pour nous parler, entre autres, des personnes âgées et de tout ce que vous devez savoir en été. Et pour commencer, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on entend tout et son contraire. On va avoir l'heure juste. Alors, quelques nouvelles d'abord. Un unijambiste français sur les traces de Terry Fox. Comme son modèle, Terry Fox, le marathonien Guy Amalfitano a entrepris ce long périple de 7600 km pour soutenir la recherche sur le cancer. Parti de Saint-Jean à Terre-Neuve le 13 mai dernier, il entend arriver à Vancouver le 6 novembre, soit une traversée du Canada en 177 jours. Depuis 46 jours, Guy Amalfitano court l'équivalent d'un marathon par jour à une vitesse moyenne de 8 km/h. Atteint d'un cancer des os, Guy Amalfitano a été amputé de la jambe droite à 17 ans. Quelques mois plus tard, il entend parler pour la première fois de Terry Fox, qui tente à l'époque, en 1980, de traverser le pays sur une jambe. Ça m'a bouleversé, ça a complètement changé ma vision des choses. Depuis, l'homme, qui a maintenant 54 ans, a effectué 2 tours de France pour amasser des fonds pour le cancer, en plus de participer 3 fois aux Jeux paralympiques. Beaucoup de gens, explique M. Amalfitano, notamment en France, ne connaissaient pas Terry Fox. Quand j'ai fait mes 2 tours de France, je l'ai mis en avant et ils ont redécouvert ce personnage qui, pour moi, est le plus grand des héros. Au fil de la route, le coureur prend le temps de discuter avec ceux qu'il croise. Thérapeute en réadaptation physique, Joanne Poirier, rencontrée près de Saint-Pascal, au Kamouraska, voit dans cette course un acte de courage et de détermination. Ça peut inspirer des gens qui n'ont peut-être pas de blessures physiques, mais qui vivent des défis dans la vie, commente Madame Poirier. Tout au long de son périple, Guy Amalfitano est suivi par un accompagnateur qui conduit la caravane de la traversée de l'espoir. Ils seront une demi-douzaine à se relayer jusqu'à Vancouver. Une caravane donc qui le suit tout au long du parcours et bien sûr les fonds recueillis seront remis à la Société canadienne du cancer. Un peu plus d'argent pour les tout-petits. Québec bonifie les services de garde éducatifs à l'enfance en octroyant 40 millions de dollars pour améliorer les services offerts aux tout-petits. Les principales sommes allouées serviront à bonifier les heures allouées à la préparation des repas, à améliorer la qualité des services par une meilleure formation du personnel. Mais l'investissement permettra aussi d'aider les enfants ayant des besoins particuliers. Près de 9 millions de dollars serviront notamment à favoriser leur intégration. Les enfants handicapés ainsi que ceux vivant dans des milieux défavorisés bénéficieront d'un meilleur encadrement selon le ministre Proux. Il y aura possibilité d'avoir de la formation supplémentaire, ajoute M. Proux. C'est un pas dans la bonne direction et on tend vers la capacité à intégrer tous les enfants, peu importe leur type de difficulté. Bien qu'elle soit satisfaite de l'annonce, la vice-présidente de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, les CPE, Gina Gasparini, estime que les investissements demeurent insuffisants, surtout pour les jeunes ayant des besoins particuliers. Est-ce suffisant? Non, dit-elle. Nous sommes contents de voir un réinvestissement pour les enfants handicapés, mais la somme que l'on reçoit par enfant n'est pas assez, déplore-t-elle. On reçoit 39 dollars par jour par enfant, mais quand l'enfant doit être accompagné à temps plein, ça ne couvre pas le salaire d'une éducatrice 8 heures par jour. C'était un article recueilli avec les informations de Pascal Lacombe. Un jeune homme d'Ottawa veut aider à recruter des donneurs de sang. La Société canadienne du sang presse la population à faire preuve de générosité à l'approche du long week-end de la fête du Canada. L'organisme peine à recueillir le seuil minimal de 16 000 dons chaque semaine pour maintenir la réserve à flot. Du haut de ses 6 ans, de Lincoln se cache un parcours du combattant. Le jeune garçon d'Ottawa est atteint d'une déficience immunitaire, ce qui le rend incapable de combattre les infections et les virus. Pour remédier à la situation, il reçoit des transfusions sanguines chaque semaine. Lincoln célébrait son anniversaire lundi. Il a passé une partie de la journée à la clinique du sang pour rencontrer les donneurs. La Société canadienne du sang apprécie ce genre d'aide, la qualifiant de capitale, elle qui espère avoir 25 000 unités de sang en réserve. Marianne Saint-Michaël de la Société canadienne du sang affirme que la présence d'un receveur sur place a un impact sur les donneurs. Ce que nous remarquons lorsque les gens viennent donner du sang et qu'ils voient un receveur, c'est qu'ils sont plus enclins à prendre quelque chose, quelque chose de spécial. Plusieurs donneurs de sang ont été ainsi touchés par l'histoire du jeune Lincoln. L'organisme espère recruter d'autres receveurs pour que des donneurs puissent être en contact avec ceux qu'ils aident. C'était d'après un reportage d'Estelle Côté-Sroka. À l'international maintenant, on se transporte au Nicaragua où des aveugles apprennent l'art du massage. Et nous sommes dans une salle au mur vert où résonne une musique douce. Jason Perez, devenu aveugle dans un accident, se forme au massage shiatsu, thérapie traditionnelle japonaise dont les cours sont dispensés gratuitement au Nicaragua pour les non-voyants. « Je m'occupe de personnes souffrant de stress, d'insomnie, de douleurs lombaires, de migraines », raconte cet homme de 24 ans lors d'un cours pratique de l'Université de médecine orientale Japon-Nicaragua à Managua. Il y a 5 ans, un accident de moto lui a causé un décollement de la cornée. Jason a perdu la vue et son travail dans un atelier de réparation de téléphone mobile. « Je le fais pour survivre », explique Jason, car il n'y a pas de travail pour les non-voyants au Nicaragua, l'un des pays les plus démunis d'Amérique latine, avec 30% de ses 6 millions d'habitants vivant sous le seuil de la pauvreté, selon la Banque mondiale. C'est un bonheur quand les patients disent qu'ils se sentent bien. Après une session, explique-t-il dans la salle de l'université où des lits sont installés, ainsi qu'un ventilateur pour apaiser la chaleur étouffante. Au Nicaragua, la formation gratuite de Shiatsu a démarré en 2009 et 54 aveugles sur les 100 qui se sont inscrits au programme ont décroché leur diplôme. La majorité d'entre eux gagnent désormais leur vie en réalisant des massages à domicile ou chez eux, indique le porte-parole de l'université, Carlos Duarte. Et on s'en va, c'est ça la magie hein, de la radio, un petit coup de fil et hop, nous voilà transportés en Abitibi-Témiscamingue où nous attend M. Sébastien Meuret, conseiller en loisirs. Bonjour M. Meuret.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de pouvoir vous parler. L'été, déjà son plein, même si nous ne sommes pas encore tout à fait au mois de juillet, mais le 1er juillet est à nos portes. Et je voudrais que vous nous présentiez l'organisme, parce que vous représentez, hein, Monsieur Murray, vous êtes conseiller en loisirs de l'organisme Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. Je voudrais que vous nous présentiez votre organisme, quelle est sa mission et qu'est-ce que vous proposez. Poser, alors, en Abitibi-Témiscamingue.
Parfait. Je travaille pour l'ARCEP, qui est l'Association régionale du loisir personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, un programme de loisirs sport. Nous, notre but, c'est de rendre accessible un loisir de qualité aux personnes handicapées.
D'accord.
Que ce soit en les aidant financièrement ou en adaptant des activités du quotidien pour leur réalité.
Vous les aidez financièrement aussi?
Oui, nous avons un programme d'assistance financière. Nous aidons les organismes qui font en sorte qu'eux puissent aider leurs membres chez eux. Mmh. Donc, on a un volet d'accompagnement et de projet.
OK. Alors, quel type, parce que si je vous comprends bien, vous chapeautez hein, plusieurs organismes de loisirs et de sport dans votre province, dans votre région. C'est bien ça?
Oui, exactement. L'ARFAT, c'est un programme de loisirs sport. Donc, nous faisons en sorte que sur le territoire, Nous offrons des loisirs et des sports adaptés pour la clientèle des personnes handicapées là, sur tout le territoire. Et Dieu sait que l'Abitibi-Témiscamingue est un grand territoire.
Oui.
Donc, nous devons vivre avec les réalités de la région.
Oui.
Donc, nous réussissons quand même à offrir une belle gamme d'activités pour eux.
Alors, quel type d'activité, justement?
Bien, pour l'été, nous avons un emploi Été Canada avec nous qui fait des activités touristiques, des activités de loisirs, de sport et de plein air sur le territoire, mais majoritairement à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or.
Oui.
Ces activités-là, ils comblent des besoins là, auprès de 20 clients chez nous là, pendant l'été qui n'ont pas... Ils n'ont pas de loisirs, donc on a une personne responsable qui permet l'animation d'activités là, auprès d'eux, que ce soit des sorties touristiques sur le territoire et autres.
OK. Alors, quel genre de sorties touristiques?
Un attrait de chez nous, bien sûr, c'est le refuge Pajot. Donc, à la porte des clients, là, aller voir les animaux et passer une journée là-bas. Des musées minéraux et autres. Le festival d'humour, festival de musique, tout ça, là.
D'accord. Alors, ça, c'est du côté loisirs et tourisme.
Oui.
Et du côté sportif, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Côté sportif, nous, à Rouyn-Noranda, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'on a un lac à l'intérieur de la ville. Donc, on a une piste lab. Elle peut faire des sorties à la piscine, à la plage. Elle peut adopter du soccer, faire du goalball, qui est un sport pour les aveugles.
Oui.
Donc, elle peut tout faire ça à l'extérieur là, pendant la saison estivale.
Autrement dit, vous essayez de contenter tout le monde, je veux dire tout type de handicap. C'est bien ça,
oui,
M.
exactement,
Murray?
Oui, exactement. Étant donné que le bassin de population est restreint par ici, on essaie d'offrir une activité qui peut faire l'inclusion de tous les types d'handicap qu'on peut retrouver. Là.
Bon. Alors, donc, vous travaillez avec tous ces organismes-là. Est-ce qu'il y en a qui offrent quelque chose d'un peu plus spécifique, peut-être, qui pourrait tenter des gens qui nous écoutent?
Nous, on offre une gamme d'activités par semaine selon les besoins. Donc, vous pouvez contacter avec nous, puis on y va selon... Ce que le client demande.
D'accord, M. Murray.
Puis pour d'autres organismes, c'est difficile là, pendant la période estivale là, qu'il y a plusieurs organismes qui ferment leurs portes étant donné un manque de financement. Donc, ils les réfèrent chez nous pour des activités.
Bon, d'accord. Alors, comment peut-on vous joindre, M. Murray?
C'est facile. Nous, nos bureaux sont à Rouyn-Noranda. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 819-762-8121. Ou sinon, par courriel à mon adresse au smurray@urlsat.qc.ca.
OK, donc je vais vous redire ça. Je vais redire ça pour les auditeurs qui nous écoutent tout doucement.
Oui.
Le téléphone, c'est le 819-762-8121.
Oui.
Le site, c'est bien ULSAT ou j'ai raté une lettre?
Oui, exactement.
D'accord.
ULSAT.
ULSAT, d'accord.
Ouais, pour Unité régionale de loisirs et sports de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on n'a pas le R dans le...
D'accord. Alors, ulsat.qc.ca pour avoir toutes les informations. Si, par hasard, vous êtes en Abitibi-Témiscamingue en ce moment, si vous y habitez ou si vous êtes en visite, il y a plein de choses à faire là-bas, d'après M. Murray. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, M. Murray. Puis, bon été à tout le monde là-bas.
Merci, ça fait un plaisir et au plaisir de voir... des personnes sur notre beau territoire.
D'accord, M. Murray. Au revoir.
Merci, au revoir.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor. Em fevereiro, debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão, na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Não me negue seu amor, me entregue seu amor. Isopor de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor.
À Bia de la chanson ensoleillée. C'est vrai quand même. Ok, je pense avoir maintenant au bout du fil Sarah Rouleau, responsable des communications marketing événements spéciaux. Sarah Rouleau qui va participer régulièrement à notre émission d'ailleurs et je l'en remercie. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors Sarah, on le sait, hein, et parce qu'on est aussi évidemment très très sensibilisé par ce problème ici chez Vues et Voix, et il y a plus de 3 millions de Canadiens qui sont dans l'incapacité de lire des imprimés, bon, soit parce qu'ils ont une limitation visuelle, soit parce qu'ils sont carrément non-voyants, ou alors parce qu'ils ont une incapacité physique, hein, qui les empêche de manipuler un livre. Et ils ont donc besoin de documents accessibles. Et l'INCA a récemment lancé une campagne de sensibilisation qui s'intitule « Le droit de lire », c'est bien ça.
Oui.
Et puis vous avez créé, suscité des rencontres auprès des députés à travers le pays pour demander la mise en œuvre d'une stratégie fédérale pour la production de livres accessibles, du moins pour qu'il y en ait plus. Parce que c'est vrai qu'entre vous et nous, entre Vues et Voix et l'INCA, on fait ce qu'on peut, mais finalement, ça reste un tout petit pourcentage de bouquins et de documents qui sont accessibles aux personnes qui en ont besoin. C'est bien
oui,
ça.
Effectivement.
Alors, comment ça s'est passé, toutes ces rencontres-là, et est-ce que ça va permettre un développement quelconque, d'après vous, Sarah?
Bien, en fait, au début, c'est ça, on avait lancé la campagne parce que le financement s'arrêtait totalement.
Oui.
On a eu déjà bon du financement jusqu'à juillet, donc ça, c'est très bien. Là, le gouvernement a répondu, mais on a continué la campagne justement là, avec les rencontres aux députés, etc., parce qu'on veut pas juste là, un financement à chaque fois pour 3 petits mois.
Mais non.
On voulait vraiment une solution à long terme. Puis comme vous le dites, c'est ça, en ce moment, il y a vraiment un faible pourcentage des œuvres qui sont accessibles, qu'on pense aux livres, aux journaux, aux revues.
Sans compter le délai, parce
que ça prend un délai.
Mais oui.
Et c'est que le problème, c'est que chaque année, même bon, si VEVA et INCA produisent des livres, on n'arrive jamais là à combler le fossé. Puis le fossé, d'année en année, entre ce qui est imprimé et ce qui est offert en format accessible, il s'accentue. Et dans le reste du Canada, ben c'est surtout INCA. Donc au Québec, on est un peu chanceux, on a plus d'un organisme qui font des livres adaptés. Mais au Canada, INCA, c'est le plus gros producteur de livres. Mais ça reste un organisme à but non lucratif. Avec des moyens limités, comme vous le savez. Vous aussi, là, vous travaillez dans le domaine.
Oui, oui.
Et on ne peut pas répondre à la demande. Donc, il faut une solution pour vraiment que ça soit... ça devrait être une priorité. Tu sais, les personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle ont le droit de lire. Ils devraient avoir accès à l'information.
Oui.
Et ça devrait être une priorité, puis ça devrait être constant. Comme on disait tantôt, oui, bon, là, on a eu une bonne réponse du gouvernement. Mais déjà, le juillet, fin juillet s'en vient. Et bien, on ne sait toujours pas. Ça met en péril la production de livres, de livres adaptés. Là. Qu'est-ce qui va arriver après? Et à chaque fois qu'il y a de l'attente, ben, des livres ne se produisent pas. Donc, il faut quelque chose là, à long terme.
Oui. Et puis, livres et documents. Et puis, à commencer aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi, Sarah, par des documents d'ici, des documents québécois, des documents canadiens, parce que il faut pas se cacher que maintenant il existe un paquet de sites internet qui nous permettent d'avoir accès à des livres assez rapidement.
Oui. Hein?
Ça, on s'entend. Sur le plan international, on s'entend. Mais les auteurs d'ici, les documents d'ici, les journalistes d'ici, je veux dire, ils comptent sur nous. Et les,
oui, hein, exactement.
Et c'est ça qui est essentiel. Je veux dire, c'est un service essentiel.
Et en français aussi, hein, c'est important.
Ben oui, mais bien sûr.
Donc au Canada, on en produit beaucoup en anglais, mais le français aussi reste important. Et c'est ça, tu sais, l'accès à l'information, à la culture, c'est très local aussi. Donc, on veut savoir ce qui se passe chez nous et dans notre culture pour pouvoir participer pleinement en tant que citoyen. Donc oui, c'est important. C'est tant mieux d'avoir des choses internationales. Puis c'est bien qu'on n'ait pas, avec le traité de Marrakech, là, on va pouvoir échanger. On n'a pas besoin de refaire les choses en double, en triple. Mais oui, d'avoir des choses d'ici. Et même aussi, je dirais, pour l'éducation. Tu sais, quand les jeunes vont à l'école, ils ont besoin des livres que les autres étudiants ont à l'école. Donc, ils ont des besoins précis. Et voilà.
Oui, sans compter que je parlais encore avec un non-voyant hier à cette émission et qui me disait que c'est quand même un monsieur de 65 ans et qui ne lit pas le braille. Ça veut dire que de plus en plus, les gens font confiance à l'audio.
Oui.
Il y a de moins en moins de personnes avec des difficultés perceptuelles comme ça qui utilisent le braille. D'ailleurs, à tel point qu'on est en train de le réintégrer dans les écoles, si je ne m'abuse, pour que les jeunes non-voyants puissent... mais bon.
Oui, c'est ça. Le braille reste très important pour l'alphabétisation, pour comprendre la syntaxe, le vocabulaire. Mais vous l'avez dit tantôt aussi, on a accès de plus en plus à des documents sur Internet, à des documents sur l'ordinateur, mais ça fait partie des livres accessibles. Et tous les livres ne sont pas sur l'ordinateur.
Non, c'est ça.
Et il y a une différence aussi entre les e-books, par exemple, que les voyants peuvent lire sur leur tablette, et des livres adaptés à la déficience visuelle,
bien
à la déficience perceptuelle. C'est se promener d'un chapitre à l'autre, que les images soient décrites. Les tableaux aussi, quand on pense à l'école, les tableaux, c'est important.
Bien
c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de livres qu'il y a toutes les informations.
Non, mais vous avez raison. C'est pour ça que d'ailleurs, hein, les gens, il y a souvent une confusion entre le livre audio et le livre audio adapté.
Oui.
Et vous avez raison vraiment de le préciser. Tout à l'heure, vous avez brièvement parlé du traité de Marrakech. Et il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez. Pourriez-vous nous dire ce qu'est le traité de Marrakech en quelques mots, hein, facile, facile?
Oui, mais en fait, c'est un traité international des Nations Unies, plus précisément là, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le but, c'est d'éliminer les barrières qui entourent l'accès aux ouvrages accessibles en modifiant les lois sur les droits d'auteur.
Oui,
donc, c'est d'ajouter des exceptions pour les personnes aveugles ou ayant des difficultés à lire les imprimés pour qu'on puisse échanger ou adapter le matériel. Donc, on sait que souvent, les droits d'auteur, on a moins accès aux documents et tout, mais c'est de mettre voyons, des exceptions pour qu'on puisse modifier les ouvrages et les rendre accessibles. Ça va aussi permettre le partage des œuvres entre les pays, ce dont j'ai parlé tantôt. Donc, pour pas avoir, si un livre a déjà été fait et rendu accessible dans un autre pays, pour pas perdre du temps ici le refaire. Donc, c'est d'échanger là, entre les pays et comme ça que tout le monde ait plus accès à un plus grand volume de documents.
De documents. Et ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, pour le Canada, que si une stratégie n'est pas mise au point, si on n'a pas un plan là, pour produire à nouveau là, des titres accessibles, ben, il pourrait aussi, le Canada pourrait ne pas répondre aux exigences du traité, non?
Mais oui, effectivement, si on n'a pas de plan pour produire des nouveaux titres, on ne répondrait pas vraiment aux exigences parce que le but du traité, c'est d'échanger aussi là, entre les pays, puis on ne peut pas partager si nous, on n'en fait pas des nouveaux.
Mais non, c'est ça.
Donc, il faut en faire, pas juste se contenter de ce qu'on a, il faut en produire des nouveaux. Et même le Canada devrait être un leader dans ce domaine-là. On devrait montrer la voie et favoriser là, la production de livres accessibles parce que, de toute façon, on l'a dit tantôt, on ne peut pas juste avoir une certaine base. À chaque année, le fossé augmente. Il y a toujours des nouvelles choses qui se produisent, que ce soit local ou international. Donc, on ne peut pas seulement arrêter. Il faut continuer de produire des livres. Là.
Oui. D'après vous, quels sont les plus grands manques?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce qu'on va trop dans le livre roman, par exemple, et puis au détriment de livres scolaires, par exemple?
Ça, je pourrais pas vous dire.
Mais
tout est important.
Mais
donc, c'est sûr que les livres scolaires sont très importants.
Mais oui, mais c'est même pour ça que j'en parle.
Oui, exactement. Mais la culture aussi, l'information, puis c'est surtout la liberté d'avoir accès à ça. Nous, on se demande pas à quoi on a le droit d'avoir accès. Le droit de lire, l'accès à l'information, à la culture. Donc, c'est tout aussi important, je crois. C'est pas parce que c'est du divertissement que c'est moins important, tu sais, pour faire partie d'être un citoyen à part entière pour la culture. Mais peut-être que ce qu'on cherche, c'est une solution à long terme. Peut-être que c'est des sujets qui peuvent être discutés. Puis justement, on veut que le gouvernement s'assoie, fasse un groupe de travail avec INSEA ou d'autres organismes.
Mais c'est sûr que Vues et Voix serait ravi de participer.
Ben oui, c'est ça. Puis même, tu sais, on disait qu'il y a la déficience visuelle, mais il y a les gens qui ont un handicap physique, il y a les gens qui ont un problème d'apprentissage. Puis on veut qu'ils s'assoient pour trouver des solutions, puis peut-être voir c'est quoi les priorités, mais ça prend du temps. Et entre-temps, on veut pas que la production de livres accessibles s'arrête.
Mais non, exactement. Bon, ben écoutez, Sarah, on va se croiser les doigts, vous, Alinka, nous, chez Vues et Voix, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté partout, de part et d'autre. Maintenant, il va falloir aussi qu'il y ait de la bonne volonté du côté du gouvernement, parce que c'est pas vrai qu'on doit laisser c'est tombé plus de quand même de 3 millions de Canadiens, comme je le disais, à l'imprimé. Et c'est pas rien. 3 millions de personnes qui sont directement concernées par les livres accessibles, par les documents adaptés. Quoi. Bon, alors on est sur la même longueur d'onde, Sarah. Et on va avoir l'occasion de se reparler souvent à cette émission.
Avec plaisir.
Et j'en suis absolument ravie, et les auditeurs aussi. Sarah
merci
Rouleau.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Merci
au revoir.
Merci vous aussi.
Oui, là, madame, elle est contente quand elle entend ce générique que l'on doit, je le rappelle, à Christine Tassan et les imposteurs. Des gens qui ont quand même, avec ce que vous entendez là, obtenu le prix Opus du meilleur album de jazz. Cette année, ce n'est pas rien. Alors, vous écoutez Clotilde Seille et ses invités, bien sûr. C'est l'émission M l'été sur Canal M qui se prolonge. Et j'ai un invité en studio. Je vais tout de suite me tourner vers lui. Sébastien Davio, bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous un tout petit peu de votre micro. Voilà, pour qu'on vous entende bien. Sébastien, vous avez plus de 7 années d'expérience dans un domaine bien précis, l'adaptation de vélos et de tricycles pour des personnes handicapées.
Exactement.
Ça vous est venu comment, vous, cette idée-là, tout d'un coup, de vous dire « Oh là là, il faut faire quelque chose
» En fait, je travaillais dans la boutique de vélos Dans laquelle on fabriquait ces tricycles.
OK.
Donc, en augmentant, en travaillant avec eux, j'ai commencé à être représentant.
OK.
Donc, travailler avec les centres de réadaptation, les écoles et tout au Québec.
OK.
Donc, le fil en aiguille, ça continue comme ça. Donc, maintenant, je suis rendu où je suis rendu.
Alors, à Repentigny, déjà, pour commencer. Alors, ça s'appelle... c'est Trivel, c'est bien
Trivel,
ça?
Oui.
T-R-I-V-E-L, comme tricycle et vélo, peut-être?
Oui, ça peut être ça à la base.
Ça peut être ça. Parce que c'est pas ça?
Ben, en fait...
ça peut seulement ou ça... Ou c'est, non?
En fait, à la base, pour faire une histoire courte...
Oui, allez-y. Allez-y, prenez votre temps. Là, c'est l'été, mon ami, vous savez.
On a joint deux compagnies de tricycles. Donc, en 2014, on a fait la jonction entre Trivel et Au coin du pédaleur.
OK, donc, d'accord.
Maintenant, on regroupe deux compagnies de tricycles parmi, en fait, au Québec. Puis, on l'a maintenant nommé Trivel, puisque c'est plus simple à dire en anglais, en français, qu'au coin du pédaleur.
Comment on dirait ça en anglais? Travel?
Non. Travel.
Travel. Ah oui, bah, vous l'avez mieux que moi. Mais moi, de toute façon, je ne suis pas dur à battre dans le domaine. Ça remonte quand même à quelque temps. Je veux dire, c'est pas d'hier qu'on construit des tricycles pour des personnes à mobilité réduite.
Non, effectivement, ça fait plusieurs années que c'est conçu. Avec les années, on s'améliore, les nouvelles technologies. Donc, on trouve toujours des nouvelles adaptations. On fait face à toujours des nouveaux défis aussi.
Parce que là, on parle, il y a toujours un moteur?
Non.
Non?
Le moteur, c'est les jambes ou les bras.
Aha. Uniquement. D'accord. Donc oui. Là, les gens se déplacent, ils ont une difficulté de motricité, mais ils sont capables de soit pédaler donc avec leurs jambes ou pédaler avec leurs bras. C'est bien ça?
Totalement.
Et ce sont toujours tricycles, donc avec un cycle en avant et deux roues à l'arrière?
Totalement. En fait, on offre deux gammes de produits, soit le tricycle ou les roues stabilisatrices. Donc, pour adultes, on utilise un vélo standard à laquelle on adapte un kit de roues stabilisatrices beaucoup plus résistant que ceux qu'on peut acheter en boutique ou en ligne.
Ben oui. Alors, les bienfaits, évidemment, j'imagine que c'est à peu près la même chose que finalement pour un vélo, pour une personne qui ne vit pas avec un handicap. Ça fait bouger.
Oui, c'est un moyen de liberté, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est quelque chose qui est très bien vu aussi au niveau social, de faire du vélo. Je crois que tout le monde en a déjà fait au moins une fois ou presque. Donc...
C'est un vieux souvenir, mon ami, mais quand même.
C'est quelque chose qu'on n'oublie pas.
Oui. Et est-ce qu'on voit, j'ai du mal à imaginer, mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une personne en tricycle avec des personnes sur des vélos, pédaler ensemble, aller faire une balade le dimanche, comme ça arrive, vous savez, quand on va faire des petites balades, là, comment on appelle ça, là, quand il y a des associations cyclistes. Non?
Des sorties vélo.
Voilà, voilà. Tiens, voilà. Appelons les choses par leur nom, des sorties vélo.
Donc,
est-ce que ça se fait parfois, ça, pour les personnes en tricycle, je veux dire, avec ces véhicules spécialisés?
Oui, totalement. En fait, on a une clientèle adulte et enfant.
Et enfant, hein,
donc,
c'est ça.
En famille, maintenant, la majorité de nos tricycles peuvent être utilisés avec une barre de remorquage. Donc, on utilise le tricycle de l'enfant qui est tout adapté.
D'accord.
Puis on l'utilise comme une remorque en arrière du vélo du parent pour faire les sorties familiales.
D'accord.
Donc, c'est sûr que notre clientèle a moins d'autonomie qu'un patient standard qui fait du vélo.
On s'entend. Et j'imagine que quand vous dites que vous améliorez le produit à tous les ans, on améliore quoi? Parce qu'on sait qu'on améliore, par exemple, un vélo par rapport à son poids, par rapport à des choses comme ça. Est-ce que c'est la même chose pour un tricycle?
Totalement. On essaie de rendre les vélos plus légers, les accessoires aussi mieux. Dans le fond, on s'améliore, on apprend des erreurs, les commentaires de nos clients et toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau dossier, pédale... adaptation au guidon, selle, c'est toutes des choses qu'on développe, qu'on change, qu'on améliore.
OK.
Donc c'est...
Est-ce que ça coûte cher, un tricycle comme ça?
Ou c'est un vélo relatif. Adapté? C'est sûr que si on compare un vélo standard, on ne retrouve rien dans le bas de gamme.
Oui.
Pas cher. Mais pour un tricycle adapté, on va parler peut-être autour entre 800 et 5000 $. Ça peut varier selon le modèle du tricycle, les adaptations, qu'il soit à assistance électrique ou non.
D'accord. Et on se les procure uniquement chez vous en allant à Repentigny ou est-ce que vous avez des points de vente à droite et à gauche au Québec?
Actuellement, on est le seul distributeur de
D'accord.
nos produits. On aimerait dans les années à venir distribuer un petit peu partout au Québec pour offrir aux gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer.
D'accord.
Plus de points de service.
Et pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens, est-ce qu'il existe un programme, par exemple, de physiothérapie ou autre qui peut soutenir la personne et qui peut lui permettre peut-être d'en louer un ou d'en avoir un momentanément?
Pour le moment, au Québec, on est chanceux. On a deux programmes d'adaptation vélo.
D'accord.
Donc, un à Québec, l'IRDPQ.
D'accord.
Puis, on en a un à Montréal qui est l'IRGLM, donc l'Institut de réadaptation Lindsay-Gingras de Montréal.
D'accord. OK.
Donc, c'est deux programmes qui sont financés par le gouvernement pour les enfants de 18 ans et moins, qui vous permet d'avoir un vélo adapté à vos besoins, soit un tricycle ou les roues stabilisatrices.
D'accord.
Pour un montant là, minime payable par le parent.
Donc, et pour les adultes? 150 $, pardon, vous dites à peu près.
Oui, pour
au lieu
le
de
parent
800,
doit,
oui, quand même.
Le parent doit payer toujours un 150 pour un tricycle ou, dans le cas des roues stabilisatrices, doit fournir un vélo.
D'accord.
Donc,
okay,
c'est
parfait,
deux choses assez accessibles.
Et pour les adultes, est-ce que c'est un programme qui existe aussi ou pas du tout?
Non, pas pour les adultes.
D'accord.
Malheureusement, comme un petit peu partout, les adultes sont un petit peu délaissés au niveau financement. Mm-hmm. Il y a certaines fondations qui peuvent donner un soutien financier, mais c'est rare là, qu'on ait des paiements complets.
J'imagine que pour vous améliorer, vous devez travailler avec des professionnels de la santé, des gens qui travaillent avec des personnes handicapées qui en rééducation, tout ça?
Oui, totalement. En fait, pour avoir accès au programme de vélo, ça doit être automatiquement passé par un physiothérapeute ou un ergothérapeute. Donc, on travaille continuellement avec des physios, ergos, partout à travers le Québec.
Okay.
Pour faire les demandes, donc.
D'accord. Et si des gens n'ont pas les moyens, ils peuvent aussi passer par des fondations. Vous êtes partenaire avec, je pense à Rêve d'enfant, tout ça, non?
Oui, on n'est pas partenaire. En fait, les parents ils peuvent faire des demandes à ces fondations-là. C'est des fondations qui s'offrent de payer soit des parties ou l'entièreté de l'équipement.
D'accord. D'accord, OK, parfait. On vous commande ça comment, monsieur... J'allais dire monsieur Trivel, c'est pas gentil, ça m'est presque. on commande ça comment? On peut commander ça par Internet?
Non, plus que c'est adapté, on rencontre chaque client afin de prendre ses besoins. Donc, on veut pas que ce soit un produit en ligne où quelqu'un dit « Ah, j'aurais peut-être besoin
de, oui, oui, de non, non, ça. Je comprends.
Mais c'est plus « Est-ce que vous en avez vraiment besoin? »
D'accord. Et puis, là, ensuite, on adapte ce tricycle ou ces roues-là.
Oui.
Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment, entre la commande et le moment où on le reçoit.
Totalement. Tout dépendant si vous passez par le programme d'attribution de vélo.
D'accord.
Ou si vous l'achetez privé, il y a des délais supplémentaires. C'est sûr qu'on passe par un agent payeur, donc ils doivent analyser votre dossier. Donc, normalement,
parfait,
on pourrait donner une moyenne entre 12 et 16 semaines là,
d'accord,
de la date de commande à la date de livraison.
D'accord. Et alors, pour vous contacter?
Vous pouvez nous joindre par courriel ou information à commercial@trivel.com.
Trivel.com, hein, je vais le redire pour les gens. Puis Trivel, c'est vraiment comme ça se prononce, T-R-I-V-E-L, donc trivel.com, oui.
Oui, ou par téléphone au 450-581-6670.
OK. 450-581-6670.
Puis vous demandez pour Trivel.
Merci beaucoup,
monsieur.
Excusez-moi, à chaque fois, j'ai tendance à vous appeler Denio, mais c'est Davio.
Oui.
Sébastien Davio. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Mais de rien. Et puis merci d'être venu chez nous en studio.
C'est un plaisir.
Il est beau, le studio. Hein?
Oui,
vous l'aimez?
Vraiment. Oui.
À nous aussi. Bonne journée.
Merci.
Salut.
Mon sweet.
Merci aux Lost Fingers pour cette reprise d'une chanson de Charles Bois. J'avais l'impression que c'était Jacques Dutronc qui chantait hein, « ça me faisait penser, mais ce n'était pas du Jacques Dutronc. Je suis très heureuse de la retrouver parce qu'elle a pris goût à venir faire des chroniques chez nous, notamment avec Marianne Paquette à l'émission « C'est bon pour la santé ». Et on la retrouve à l'émission « Aime l'été ». Cet été, France Remède, bonjour.
Bonjour.
Ravie vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez nous parler beaucoup, France, notamment de la condition des personnes âgées, des choses qu'on peut faire pour améliorer son quotidien quand on n'est plus de la première jeunesse, mais qu'il nous reste encore de belles années devant nous. C'est bien ça.
Ah oui.
Et France, on se pose la question, la première question qu'on s'est posée pour cette première chronique avec vous, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud? Parce qu'on entend parfois tout et son contraire. Hein? Alors, oui, avec vous, j'avais envie d'avoir l'heure juste, remarquer quoi qu'on n'a pas pour l'instant un été trop catastrophique, mais ça pourrait venir.
Juillet,
oui, hein? Alors ça pourrait venir.
Ah oui, parce qu'on le sait, avec les changements climatiques, cela augmente les possibilités d'avoir des canicules. Et ces canicules-là peuvent durer une journée, deux journées, parfois même davantage.
Oui.
Alors, c'est pourquoi il faut être vraiment vigilant dans ce sens-là. Oui. D'ailleurs, un peu pour clarifier pour les gens, l'Environnement Canada émet des avertissements de chaleur dès que la température atteint 30 degrés centigrades et que l'indice Humidex, qui est la température et le taux d'humidité combiné, atteint 40. Dès qu'il atteint 40, avec le taux Humidex, il y a des avertissements de chaleur. On va parler de chaleur extrême là, lorsque cette chaleur persiste durant 3 jours consécutifs, où la température maximale atteint 33 degrés centigrades et plus. Okay. Et lorsque la température ne descend pas la nuit, c'est ça qui est difficile, c'est que les gens ne peuvent pas récupérer même la nuit quand ça ne descend pas en bas de 25 degrés durant 2 nuits consécutives.
Mm-hmm.
Ça devient très difficile.
Mais oui.
Pour certaines clientèles, oui.
On a l'impression, France, que depuis certains étés, depuis 20 ans, mettons, il fait chaud. Mais est-ce qu'on en a vraiment connu autant que ça, des périodes de vraies canicules?
Bien, on dit que la région de Montréal a connu au moins 5 épisodes de chaleur extrême depuis les années 80, dont le dernier remonte à 2011. Alors, quand, vous savez, chaleur extrême, je l'ai expliqué, là, c'est la température pendant 2 nuits consécutives ne baisse pas en bas de 25. Alors, l'épisode de chaleur extrême qu'a connu Montréal en 2010, parce qu'il y en a eu une aussi à ce moment-là, a entraîné le décès d'une centaine de personnes même.
Non, non, c'est grave. Et on prend pas ça à la légère du tout. Du tout.
On dit que la solitude et conditions de vie particulières, comme l'obligation de garder le lit, hein, pour les gens qui ont des maladies chroniques sévères, est un facteur de risque. Les pertes d'autonomie, les problèmes de santé mentale aussi, et évidemment, la vulnérabilité des personnes.
Oui.
Et un terme qu'on utilise de plus en plus dans le domaine de la santé publique, ce sont les îlots de chaleur urbains. Alors, si on entend parler de ça, c'est des espaces sans verdure, sans arbres, des surfaces surtout asphaltées, sur du béton qui concentre la chaleur et la font augmenter. Alors, quand il n'y a pas de jardin, de parc, de zone de gazon alentour, on est vraiment dans le béton, ben l'effet est plus grand.
Exactement. Est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui sont plus à risque durant ces périodes de forte chaleur, France?
Oui, effectivement. Alors là, on va parler des personnes âgées. Oui. Les personnes atteintes, je l'ai dit tantôt, de maladies chroniques. Les personnes qui souffrent de maladies de santé mentale, des problèmes de santé mentale, devrais-je dire. Aussi les gens qui sont dépendants de drogue, d'alcool. Les enfants, bien sûr, les nourrissons, puis tous les enfants âgés de 4 ans et moins sont aussi à risque.
OK. Et alors, on peut se protéger comment, par exemple? Parce que, bon, un petit coup de chaleur, ça arrive, mais il y a des complications. Et ça, c'est un peu plus sérieux. On se protège comment?
Alors, un des premiers éléments, si on est capable de se mobiliser, d'aller à l'extérieur, c'est de passer quelques heures par jour dans un endroit frais, idéalement qui serait climatisé. On pense à des salles de cinéma, des bibliothèques, des centres commerciaux, ou chez des gens qu'on connaît, qui pourraient nous héberger un après-midi à prendre le thé, n'est-ce pas? Ou encore dans des salles communautaires. D'autres personnes vont se diriger vers des piscines dans leur secteur, ce qui est très, très bien aussi de se rafraîchir dans une piscine municipale.
Oui, mais c'est pas toujours accessible. Je pense aux personnes, entre autres, qui sont en fauteuil roulant. C'est pas évident. Non, c'est sûr.
Mais l'autre élément, c'est de s'hydrater, boire beaucoup d'eau, mais on peut aussi boire beaucoup de thé, de limonade, des jus coupés avec de l'eau quand on aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas boire seulement de l'eau comme ça. Alors, il y a d'autres façons de s'hydrater. Là.
Est-ce qu'il faut éviter, par exemple, parce qu'on dit toujours, une bonne bière bien fraîche, par exemple, quand il fait chaud.
Oui, c'est vrai qu'on a tendance.
Oui, mais c'est vrai ou c'est un leurre?
L'alcool, le café, puis les boissons très, très sucrées.
Oui, et les boissons chaudes? Parce que dans...
Les colas et tout ça, le très sucré, là, c'est à éviter.
Dans le Sahara, entre autres, ils boivent beaucoup de thé bien chaud.
Oui.
Ça a l'air bizarre.
Oui, ça a l'air bizarre, mais il semble que ça a un effet positif. Oui. On ne doit pas s'empêcher. On n'est pas obligé de boire des thés glacés. On peut boire... Moi, je bois toujours du thé chaud quand il fait chaud. Et ça m'hydrate. Je me sens très bien après. Oui.
Alors, vous dites aussi qu'il est important, bien sûr, d'en faire le moins possible. C'est peut-être pas le temps d'aller courir un marathon, mais enfin, ça, c'est bon.
Il y a des gens qui vont aller jogger quand même, par exemple.
C'est fou.
Mais pour les personnes âgées, on va leur suggérer de conserver leurs énergies, de ne pas faire trop d'activités. Oui. De se reposer. Oui. On suggère aussi de porter des vêtements légers et des vêtements clairs.
Ah oui.
Les vêtements foncés, là, ça concentre la chaleur. Aussi, il existe des... j'ai oublié la ventilation de la pièce.
Oui.
Il y a des gens qui ont des ventilateurs, ils ne les partent pas. Alors, c'est important de les partir, nos ventilateurs. Ça peut quand même créer une certaine circulation d'air et aider. Oui. C'est évident que dans des périodes de chaleur extrême, ça va faire circuler un air chaud. C'est moins efficace. Mais quand ça descend un peu, là, on peut l'utiliser, ça aide sûrement.
Mais
j'ai découvert aussi un produit intéressant, ce sont des bandeaux refroidissants et des lingettes refroidissantes. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, c'est un nouveau produit sur le marché. Les bandeaux, ils sont mieux connus sous le nom de cooling bandanas. Là. Alors, ces bandeaux-là, on les trempe dans l'eau 3 minutes. Et c'est tout. On les met autour de sa tête et ça rafraîchit vraiment.
Et moi, je voudrais
qu'ils inventent aussi dans le cou.
Ils pourraient inventer des casques de radio.
Ah, ben, je crois qu'il y en a même des casques.
Ah oui, ah, bon, oui, en effet. Oui.
Et les
effet.
Lingettes, j'ai trouvé ça par hasard dans un magasin où on vend de tout dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et je crois que c'est disponible dans les magasins à grande surface et en ligne. Ça s'appelle, en fait, c'est une lingette refroidissante à base d'un polymère, un composite de cristal.
Bon.
Et c'est très innovant parce que on va le tremper dans l'eau quelques minutes et la sensation de fraîcheur va durer 4 heures.
Quatre heures. En effet.
Oui, qu'est-ce que je dis?
Alors, France, à quel moment on s'inquiète? Quels sont les symptômes? Parce que bon, parfois on a l'impression qu'on a chaud, qu'on n'est pas bien, mais quels sont les symptômes inquiétants?
Oui, le coup de chaleur, là, c'est vraiment, ça se distingue d'une... Tu sais, on peut se sentir fatigué, transpirer beaucoup. Bon, on n'est peut-être pas encore rendu au coup de chaleur, mais le coup de chaleur, c'est très évident. On devient rouge. Hein, la personne, la figure devient rouge, le corps devient rouge. Et il y a des symptômes aussi alarmants. Par exemple, on peut se sentir étourdi. On peut même aller jusqu'à s'évanouir. Certaines personnes vont avoir des nausées, des vomissements, des maux de tête. On dit que le pouls augmente aussi. La respiration est plus rapide. Évidemment, bouche sèche, salive collante, sensation de soif intense, c'est un signe évident.
Ouais,
Miction
ouais.
moins fréquente, on va moins uriner à ce moment-là. Alors, c'est des signes qui, évidemment, doivent nous alarmer.
Et on fait quoi lorsqu'on les ressent?
Même des pertes d'équilibre, des maux de tête.
Ah oui, hein?
Ça, hein? La confusion.
France,
oui.
qu'est-ce qu'on fait?
Quand on arrive là, c'est 9-1.
Hein, c'est 9-1, c'est ça.
Oui.
Hein?
Autrement, quand on commence à développer des symptômes, il est recommandé de téléphoner Info Santé au 811 pour vraiment valider là,
oui.
ce qui se passe. Et on peut probablement redonner les mêmes conseils et se réhydrater là, avec du jus d'orange. On prend une portion de jus d'orange avec de l'eau. On met de l'eau et un peu de sel. Et cette solution-là, finalement, permet de se réhydrater. C'est un conseil que je donne. Je l'ai déjà utilisé, moi, dans le cas d'une gastro-entérite extrême, et ça fonctionne très bien.
Non. France, il faut aussi compter sur l'entourage. Hein. Lorsqu'on a des personnes âgées dans notre entourage, ne les abandonnons pas déjà en tout temps, mais spécialement aussi en période de chaleur extrême comme
oui,
ça.
Oui, c'est important parce que l'entourage, moi j'encourage les gens qui connaissent des personnes âgées ou des personnes qui sont très malades de communiquer par téléphone avec ces personnes-là, de valider leurs symptômes, de leur dire « appelle-moi si ça ne va pas ». Et de leur redonner les mêmes conseils ou de passer tout simplement, quand on sait qu'ils appelleront pas, de passer chez eux, hein, d'aller voir si c'est possible, en tout cas d'aller voir comment ça va. Et aussi de leur prodiguer des conseils. Puis de si on arrive, par exemple, on se rend compte que la personne est toute rouge et que ça va pas, ben c'est sûr qu'on va te porter peut-être à l'amener avec nous, là, mais sur le moment, si c'est trop sérieux, on sait pas trop quoi faire, au moins mettre une serviette mouillée sur le visage, s'il y a un ventilateur, le partir.
Oui.
Et aussi, si la personne est consciente, évidemment, faire boire à petite gorgée en surélevant les jambes aussi de la personne pour pas qu'elle aille en choc.
Oui.
Alors ça, c'est très important.
Et puis, comme je le dis toujours, moi, j'utilise souvent la climatisation des pauvres, c'est-à-dire ventilateur avec un push-push d'eau.
Oui,
alors, vous push-pushez, vous push-pushez et vous croisez les doigts pour vous endormir dans le quart d'heure où ça va être utile. Et comme ça, hein, parce qu'à tous les quarts d'heure, il faut à nouveau, mais moi, j'ai fait ça très longtemps. Vous savez, quand on était jeune et cassé et tout ça, qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un climatiseur, on s'arrose puis on part le petit ventilo. France, je pense qu'on a fait le tour et je vous remercie beaucoup, France Remette, là, pour tous ces bons conseils.
Oui? On va mettre les ressources sur le site web.
Oui, d'accord.
Il y a des ressources où on peut s'approprier des dépliants dans toutes les langues, dans plusieurs langues. Je crois qu'il y a une vingtaine de langues différentes pour les gens qui sont de communautés culturelles.
D'accord. Ah, quelle bonne idée. Alors, on va mettre ça sur notre site internet, c'est sûr, France.
Bon.
Merci beaucoup. J'ai déjà hâte à la prochaine.
À la prochaine. Au revoir.
Bonne journée. Allez, au revoir. « Et en rafale maintenant, Ville-Marie contre l'accessibilité universelle, la réplique qui est arrivée de la part du Café Renard. Alors, c'est en date du 6 juillet 2017, on nous apprend que l'arrondissement Ville-Marie va fermer la terrasse du Renard. Le Renard, c'est un bar de la rue Sainte-Catherine, bien que ce communiqué nous fasse savoir que la terrasse est sécuritaire et qu'elle est conçue pour répondre aux exigences de l'accessibilité universelle. Pourquoi est-ce que la ville veut fermer cette terrasse-là? Eh bien, parce qu'elle ne convient pas aux lois actuelles du cadre réglementaire. Alors, Renard n'entend pas refuser les clients à mobilité réduite. Et c'est parce que Renard veut s'intégrer à sa communauté, parce que c'est l'an 2017 et parce que c'est la moindre des choses, que le bar a pris l'engagement d'offrir à sa clientèle un espace se conformant aux exigences de l'accessibilité universelle. Mais malheureusement, les contraintes qu'impose l'arrondissement de Ville-Marie, Montréal, forcerait le bar à réduire la hauteur de sa terrasse à 2 pouces du trottoir, ce qui empêcherait l'accès à l'intérieur du bar et aux salles de bain à sa clientèle à mobilité réduite. Alors Renard a tout mis en place afin d'être accessible universellement et le sera, disent les propriétaires. Les lois imposées par l'arrondissement sont désuètes et doivent être changées, adaptées. Et alors à cette fin, Renard, le bar, organise un 5 à 7 bénéfices pour le regroupement des activistes pour l'inclusion du Québec, autrement dit le RAPLIC. Ça aura lieu ce 5 à 7 lundi prochain, le 3 juillet, même qu'il y aura un cocktail spécial qui sera créé pour l'événement dont la totalité des profits sera versée au RAPLIC. Et pour cette soirée, la terrasse sera destinée en priorité aux personnes à mobilité réduite. Le bar Renard, c'est 1272 Sainte-Catherine Est. Et voilà ce qui vient conclure M l'été pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute mon équipe, à Sylvie Rivard, à Mathieu Tessier. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une bonne journée. À lundi.